L'âge bête sur RCN.
Bienvenue à nos chers auditeurs de chez RCN Radio. Nous sommes le mercredi 23 et nous vous enregistrons depuis Pont-à-Mousson.
Salut tout le monde.
Coucou. Salut.
Aujourd'hui, nous écoutons plusieurs chroniques, notamment celle de Louise.
C'est ça, sur les légendes et contes de Disney.
Voilà. Lucie, toujours expression française.
Toujours, on change pas.
Toujours. Et toi, Antonin, ton quiz.
10 questions au programme.
Et pas de baccalauréat.
Non.
Vous écoutez L'âge bête sur jusque 14h30.
RCN. L'âge bête.
Alors du coup, je vais vous présenter un personnage ou un élément d'un film Disney et vous allez devoir deviner si c'est inspiré d'un mythe, conte ou légende ou si c'est une création 100% Disney.
D'accord.
Ok. Donc je vais commencer par dans Pirates des Caraïbes avec le Hollandais volant. Donc pour faire un petit récapitulatif, dans le deuxième film de la saga Le Secret du Coffre Maudit, on découvre le Hollandais volant, un navire fantôme redouté de tous. Il est dirigé par David Jones, un capitaine maudit au visage monstrueux, mi-homme, mi-créature marine avec des tentacules. Le navire surgit des flots pour traquer ceux qui ont un pacte avec lui. Excuse-moi. Alors du coup, selon vous, mythe réel ou pur délire hollywoodien?
Donc là, on parle du personnage avec les tentacules.
On parle du mythe du Hollandais en volant, donc le bateau. D'accord. Avec le capitaine maudit qui tracte ceux qui ont un pacte avec lui.
Bah, moi, je pense que c'est un mythe.
Donc ça voudrait dire qu'il y aurait un mythe avant qu'il le mette dans le
exactement.
Film.
Exactement.
Oui, je pense que c'est un mythe réel aussi.
Vous pensez que c'est un mythe réel?
C'est possible. Hein. Mais je me souviens, dans le film, la légende était trop bien faite, il y avait une bonne ambiance et tout.
Avec qui apparaissait quand il y a les rayons verts du soleil qui se couche.
Ouais.
Et du coup, oui, c'est un vrai mythe et c'est l'un des plus célèbres de la mer. Donc la légende du Hollandais volant... on en parle très souvent d'un capitaine hollandais qui est parfois nommé Van der Decker, qui aurait tenté de franchir le cap de Bonne-Espérance malgré une terrible tempête. Dans sa folie ou dans son arrogance, il aurait défié Dieu en criant qu'il passerait, même si cela devait lui prendre l'éternité. Résultat, punition divine ou démoniaque selon les versions. Lui et son équipage seront maudits à naviguer sans fin, sans jamais pouvoir accoster. Ce navire fantôme est souvent décrit comme apparaissant dans les brumes, brillant d'une lumière surnaturelle et est considéré comme un mauvais présage. Il a fasciné de nombreuses générations de marins et d'écrivains, dont Goethe, Wagner et même des témoins historiques comme George V qui aurait rapporté l'avoir vu. Disney s'est emparé des Pirates des Caraïbes en y ajoutant du mythe et des tentacules, le cœur dans le coffre et une belle dose de spectacle. Mais du coup, c'était réellement un mythe.
D'accord.
Ok.
Pour le deuxième, je vais m'attaquer au Roi Lion. Donc ce film culte nous plonge dans la savane africaine où l'on suit le destin d'un jeune lion héritier d'un trône convoité. Après la mort tragique de son père, il s'exile ragé par la culpabilité jusqu'au jour où il décide de revenir pour affronter son passé et reprendre sa place. Alors selon vous, mythe africain ancestral ou création Disney?
Pour moi, ce serait une création Disney, celle-là.
Je pense plutôt parce que je vois pas ça.
Je pense les mythes africains. Je pourrais faire des trucs du genre, mais pas ça, je pense.
Je pense pas.
Ok, donc vous dites tous scénario Disney.
Oui.
Oui.
Eh ben, oui et non. Donc c'est une création originale Disney, mais il y a une énorme inspiration de Hamlet de William Shakespeare. Un roi tué par son propre frère, un fils en fuite, puis une vengeance. C'est très shakespearien tout ça.
Ils l'ont revisité.
Exactement.
En
Lyon. Mais d'accord. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Roi Lion n'est pas du tout tiré d'un conte africain. L'Afrique sert de décor, les animaux parlent et chantent, mais l'histoire n'a aucune racine traditionnelle locale. C'est un récit totalement inventé avec des structures classiques de la tragédie. Donc pas de mythe ici.
D'accord.
Ensuite, La Princesse et la Grenouille. Je vous parlais du docteur Facilier et de ses amis de l'au-delà. Donc, La Princesse et la Grenouille, c'est un conte, ça tout le monde, je pense, le connaît. Danse Disney se roule dans la Nouvelle-Orléans des années 1920. On suit Tiana, une jeune serveuse déterminée à réaliser son rêve, donc ouvrir son propre restaurant. Mais sa route croise celle d'un prince transformé en grenouille qu'elle embrasse à contre-cœur avant de subir elle-même une étrange métamorphose. Derrière ces événements se cache le mystérieux docteur Falicier, un sorcier charismatique qui passe des pactes avec des forces invisibles. Alors, à votre avis, simple invention scénaristique ou inspiration directe de croyances et de rituels bien réels?
c'est quand même assez tiré par les cheveux. Hein.
Ouais, mais je me dis,
il fait des pactes avec des gens de l'au-delà, et c'est ce qui lui procure ses pouvoirs magiques.
Je me dis un peu les trucs, quand les gens ils se mettent autour des tables rondes, etc., je me dis, ça peut ressembler, etc. Je pense que
quand les personnes se rassemblent pour faire... pour invoquer
des esprits, etc.
Alors,
en vrai, je pense que ça peut être un mythe. Un mythe,
mais bien sombre.
Bah, là, c'est surtout, est-ce que c'est il y a des réelles croyances rituelles ou si c'est complètement scénaristique?
Pour moi, non, je pensais scénaristique. Moi.
Ouais, parce que moi, après, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé. Après, ça, c'est la grenouille, mais ouais, pour moi, c'est scénarisé.
Pour moi, il y a un mythe derrière.
Un petit peu de. Ouais, un petit peu. Ouais,
pas tout, mais un petit peu peut-être.
Comme le Roi Lion, ouais.
Et bah ici, on touche complètement au réel, c'est du vaudou. Donc le vaudou.
C'est sombre, je l'avais dit en fait.
est une religion qui mélange des croyances animistes, africaines et le catholicisme. Elle est née dans la communauté afro-descendante, notamment en Haïti, puis s'est développée en Louisiane et surtout en Nouvelle-Calédonie. Donc dans cette religion, il existe des esprits appelés Loas, chacun avec sa personnalité. Les vivants peuvent communiquer avec les morts. Il est possible de faire des pactes spirituels, mais il faut en payer le prix. Donc dans le film, le docteur Falicier passe un pacte avec ses amis de l'au-delà, comme il les appelle. Il utilise des amulettes, des rituels et des ombres rappellent les esprits du vaudou. Donc son style, donc il a un chapeau haut de forme, costume sombre, maquillage de crâne, et c'est un gros clin d'œil à Baron Samedi, le loa des morts, maître des cimetières et de l'humour noir. Donc ici, Disney s'inspire clairement d'un vrai système de croyances, en l'adaptant à cet univers, bien sûr.
Ah oui, mais dès l'enfance, en fait, on nous met dans des situations scénarisées.
C'est
comme
très
ça.
Rassurant.
Alors là, on va s'attaquer à un gros film Disney, La Reine des Neiges, donc avec Elsa et ses pouvoirs dans le royaume d'Arendelle. Donc dans ce film devenu culte, on découvre Elsa, une princesse au pouvoir magique, une reine même, liée à la glace, contrainte de s'isoler par peur de blesser ce qu'elle aime, son royaume, Arendelle, sombre dans un hiver éternel qu'elle seule peut contrôler. Entre château de glace, chansons cultes et bonhomme de neige vivant, tout semble sortir d'un rêve givré. Alors, selon vous, conte nordique oublié ou pure création Disney ?
Ça fait succès. Là,
qui pourrait avoir quand même cette idée ? Enfin, après, ce qu'il y a derrière le film, c'est quand même assez scénaristique. Mais ouais. ce qui montre au premier plan, je dirais que ça pourrait être un récit ou quelque chose comme ça.
Moi, je pense que c'est vraiment pur...
pur scénario de Disney.
Ouais.
Bah, moi, je pense qu'ils ont un peu touché aux cultures des pays nordiques, quand même. Et que bah, y a quand même une part de fait réel, un peu.
Alors, eh bien, La Reine des Neiges est librement inspirée du conte de Hans Christian Andersen, publié en 1844, mais il n'a rien du tout à voir avec le conte d'origine. Le conte original est bien plus sombre et symbolique que le film Disney. Il ne raconte pas l'histoire de deux sœurs, ni celle d'une princesse au pouvoir de glace, ni d'un faux prince qu'il aime, pas du tout. L'héroïne du conte s'appelle Gerda et son meilleur ami Kai. Ils vivent paisiblement jusqu'au jour où un éclat de miroir maléfique se loge dans le cœur et les yeux de Kai. Ce miroir déforme crée un démon fait pour voir le mal partout. Kai devient froid et cruel, puis il est emporté par la Reine des Neiges qui l'emmène dans son palais de glace loin au nord. Gerda part alors dans un long voyage pour retrouver et sauver Kai, son ami. Donc elle traverse des paysages hostiles, rencontre des personnages étranges,
oui,
une vieille magicienne.
Oui, comme dans le dessin animé où elle
beaucoup plus. Là, elle rencontre une vieille magicienne, des corneilles parlantes, une princesse nordique, une petite brigade, jusqu'à atteindre le palais glacé. Là, l'amour et la tendresse de Gerda va faire fondre le cœur de Kai et détruire le pouvoir du miroir. Donc la Reine des Neiges dans le conte est une figure mystérieuse, froide, distante, presque allégorique. Elle est représentée davantage par... C'est plus une représentation en fait, de la mort ou de l'oubli que le personnage principal qui est Elsa chez Disney. Il n'est jamais question de famille, de royaume ou de contrôle de pouvoir. C'est juste une histoire sur l'amitié, le mal qui peut s'immiscer dans le cœur des hommes et la puissance de, de l'amour pur, en fait, qui est l'amitié.
D'accord.
Donc, c'est inspiré,
okay.
Mais
okay.
Ça n'a rien à voir.
C'était super, super intéressant. Et je trouve que ça fait une part d'enfance en même temps. Donc,
exactement.
C'était super.
Ça fait du bien de se remémorer un peu.
Est-ce que vous en voulez un petit dernier ?
Je pense que là, on est
On n'a pas le temps.
On peut toujours, tu fais une chronique, Elsa, à la fin ?
Oui, je pense que je parlerai de...
Ok, oui, bah, dans ce cas-là, on enchaîne.
Ah bah alors, pour la prochaine fois, alors.
Ça marche.
Tu nous la gardes.
On a hâte.
Exactement.
Alors, nous écoutons une musique New Woman de Lisa feat. Rosalia.
Solo se serví la noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea.
Il est 14h13 sur RCN Radio, vous écoutez toujours L'Âge Bête et nous attaquons le quiz d'Antonin. À toi.
Bonjour, alors donc aujourd'hui 10 questions, on arrête un peu les baccalauréats là. Bon en fait je pense surtout qu'on a fait le tour des thèmes. Peut-être que j'en referai parce qu'on n'avait pas fait animaux et puis il y a moyen de trouver d'autres thèmes. Mais bon, on verra plus tard. Donc question 1. En 1956, les chars soviétiques envahissent 1. La Tchécoslovaquie, 2. La Hongrie ou 3. La Roumanie.
En quelle année t'as dit ?
En 1956.
La Tchokos...
Là, vous m'avez perdu.
Vas-y, relis les propositions. 1956.
La Tchécoslovaquie, 2. La Hongrie ou la Roumanie.
Waouh.
Après, la Roumanie, c'est plus près.
Oui, mais du coup, si c'est plus près, c'est pas déjà dans l'empire de l'URSS ?
Non.
Comme le GLAD protecteur ?
Après, en soi, tous les pays là sont près de l'URSS.
Ouais.
Hein.
Mmh. Anna, moi, je peux pas vous aider.
Bah, moi, je dis la Tchécoslovaquie.
Moi, je pense la Roumanie.
Bah, moi, le dernier, du coup.
Comme ça, c'est sûr.
Dire... Bah, il s'agissait du dernier, entre guillemets, la Hongrie.
Ah, la Hongrie, ok.
C'était... Bon, bah, voilà.
La Tchécoslovaquie, c'était une autre affaire, et je crois que la Roumanie, j'ai pas souvenir de guerre chez eux.
D'accord.
Deuxième question. Ulcère est le nom de 1. L'Écosse, 2. L'Irlande du Nord ou 3. De l'Irlande du Sud.
Ulcère.
U-L-S-E-R.
Soit c'est l'Écosse.
Soit l'Irlande du Nord ou du Sud.
L'Écosse.
Soit l'Irlande du Nord ou du Sud.
Ouais, je dirais l'Écosse aussi.
Je sais pas. Encore une fois, je ne sais pas. Je dis...
Un peu plus, vraiment. Je sais pas.
Je sais pas.
Vous savez bon. Pas. Bah, c'est l'Irlande du Nord, ah. qui est aussi donc appelée ulcère. Troisième question, peut-être que ça va plus vous parler. Quel fut le premier à taper son œuvre à la machine ? Donc à écrire, on parle d'écrivain là.
La machine à écrire ?
1. Mark Twain. 2. Victor Hugo.
Non.
3. Stéphane Mallarmé.
Le premier, c'est Mark...
Mark Twain.
Mark Twain. Bah moi, je pense Mark Twain. C'est pas la Bible qui a été le premier écrit, tapé à la machine ?
Non, ça, c'est l'imprimerie.
Ah, ok.
C'est quoi la dernière ?
C'est Stéphane Mallarmé.
Il a écrit quoi, lui ?
J'en ai aucune idée, je ne bah, connais
moi,
pas
particulièrement. Là.
Voilà. Peut-être que...
Moi, je pars sur le premier.
Ok, bah moi aussi, sur le premier.
Ça me dit, je sais pas.
Bah, c'est le premier. Vous avez raison, c'est bien Mark Twain.
Ça faisait un nom point, vieux, là. Ancien.
Ouais, un nom...
Ouais, voilà. Mais du coup, pour l'histoire de la Bible, c'était...
L'imprimerie.
C'était juste, mais pour l'imprimerie, voilà. 4. Le docteur No est l'ennemi de 1. Sherlock Holmes, 2. James Bond, 3. Spider-Man.
Le docteur quoi ?
Docteur No. No.
Soit Sherlock Holmes,
non.
Soit James
Sherlock
Bond.
Sherlock Holmes, c'est Moriarty.
Ouais.
Ouais.
Ou soit Spider-Man, ou Spider-Man, comme
moi,
vous voulez.
Spider-Man, c'est pas
non,
No.
Non,
hein.
C'est... Il n'y a pas de No dedans.
Non.
C'est quoi
Est-ce
le
qu'il y a un docteur déjà
c'est quoi, si, si, c'est le docteur Octopus.
Oui, c'est pas Spider-Man, c'est pas Sherlock Holmes.
Bah, du coup, c'est le deuxième. C'est
James Bond.
James Bond,
ouais.
Ouais,
James Bond.
Et bah, c'est ça, vous avez avec l'élimination. Sur le poids total d'un homme, le carbone représente 1, 5% du poids, donc 2, 18% ou 3, 30%.
18%.
18%, parce que 30% ça me paraît trop et 5% ça me paraît trop peu.
Ouais.
Et bah c'est bon, tout juste.
Ah, on est trop fort.
Ah non, mais là vous enchaînez.
Par élimination.
C'est ça.
Quand même, c'est assez important quand même. 18% de notre poids, c'est du carbone. C'est un peu marrant à se dire. Comme,
Mais après, il y a aussi beaucoup de. Enfin, notre corps aussi, avec l'eau, ça revient
ouais.
aussi énormément. Je sais plus le nombre de pourcents, mais
c'était oui.
trop. Oui.
Ouais, c'est ça.
6. Un hiéroglyphe de l'obélisque de la Concorde, donc à Paris. Représente 1. Un avion, 2. Un vélo, 3. Un sous-marin.
Un hiéroglyphe.
Un avion. Moi j'ai un avion.
L'obélisque de Concorde.
Oui,
voilà.
Oui.
C'est
je vais peut-être vous
place.
Donner un indice si vous voulez, au niveau de la date
ouais,
où il a
la
été
date.
Créé. Il a, depuis 1836, il trône à Paris.
Et du coup, c'est quoi les propositions ?
Donc, soit un avion est représenté par un hiéroglyphe. Soit un vélo ou un sous-marin.
En fait, l'avion, je
un
vois
vélo,
pas
ouais.
trop.
Ça refaisait un peu Paris, genre. Le vélo, je sais pas.
Un vélo, mais je sais pas.
En
vrai, c'est
moi,
ce
je partirais
plus...
sur un avion.
Je sais pas.
En 1836 ?
Bah, pourquoi pas.
C'est peut-être trop récent.
Je sais pas.
Après, 36, un sous-marin, ça serait peut-être un petit peu
ouais.
juste aussi.
Ouais.
ouais. Après, il a été fait où c'est ça je sais pas.
À la Concorde.
Ah, oui, mais là, il y a la Concorde, mais avant, il était quelque part d'autre.
Oui.
Il n'a pas été
oui.
fait à la Concorde.
Bah, moi, je dirais
je
un avion. Je crois que c'est
quand
même assez
ancien,
vieux, oui. les avions.
Ah, moi, je dis un sous-marin, peut-être.
Un vélo.
Et bah voilà, comme ça, on est sûr d'avoir
Et bah voilà, bah, c'est vélo.
Eh
ah, t'as trop.
Ouais.
Et pourquoi un vélo ?
Bah, ça, c'est une bonne question. si je savais décrypter
bah,
les
c'est
hiéroglyphes.
Quoi, je vais mettre la question, comme ça, je la saurai pour la prochaine fois.
Ah, pourquoi un vélo sur l'obélisque de la Concorde ?
Oui, exactement.
Ok, très bien.
Je te montrerai à mon frère, peut-être que c'est.
Avec le mot.
7. Le pays consommant le plus de légumes par habitant est 1. La Grèce, 2. La France, 3. Le Canada.
Peut-être la Grèce.
Ouais, la Grèce. Moi, j'aurais dit peut-être le Canada. Je tente le Canada.
Moi, je dirais la Grèce.
Moi, je dirais la Grèce parce qu'on voit beaucoup de plats comme ça. Je sais pas.
Après, la France, on a quand même beaucoup d'agriculture.
Puis même dans la cuisine française, en fait, on utilise beaucoup de légumes. Hein.
Aussi, oui.
Ouais.
Moi, en vrai, moi, je dis la France.
Mais
bah, comme
Grèce.
Ça, on en a chacune une.
Mais est-ce qu'on connaît vraiment la Grèce ? Bah, c'est justement la Grèce.
Ah.
En fait, je sais pas pourquoi j'ai souligné la France,
erreur.
Mais je me souviens que c'était la Grèce. Hein. Je sais pas, je suis
D'accord.
peut-être un peu dyslexique.
Okay.
Huitième question. Qui fut élu maire de Californie en 1986 ? 1. Paul Newman, pardon. 2. Clint Eastwood. 3. Michael Jackson.
Je pense que c'est Clint Eastwood.
D'où la question.
Je pense que pas que ce soit Michael Jackson, je pense qu'on le saurait, tu vois, vu qu'il est mort, on en parle énormément, je pense que
on qu'on saurait si c'était Clint Eastwood.
Bah, je sais pas.
C'est qui que les films?
Je sais pas.
Hein?
Mais plus, bah tu vois, nous on sait pas qui c'est, moi je sais pas non plus qui c'est, alors que Michael Jackson.
Pas Clint Eastwood.
Non. C'est qui?
En cinéma.
Mais je sais que ça va dans le monde.
Il a fait énormément de.
Bah dans quoi dans ton.
Mais c'est un acteur.
Mais peut-être que je vais savoir c'est qui, mais là. Ah si, ok, je vois c'est qui.
L'acteur dans. Donne-nous un film pour qu'on ait un visuel.
Alors on a. Je sais pas si
c'est pas un acteur. Hein. Je.
Ah c'est pas un acteur.
Non, c'est un réalisateur. Bah,
Clint Eastwood, c'est un acteur.
C'est un acteur.
Ils disent que c'est un acteur.
Bah ouais.
Ouais, je pensais que c'était un réalisateur, tu vois.
Qui est un succès dans le western. Il a 94 ans. Dans les films un peu western, comme ça.
Ah oui, c'est ça, comme on dit, les films de Clint
Eastwood. Et le premier, c'est Paul, c'est ça?
Bah voilà, moi je sais c'est quoi.
Paul Newman. Qui est Paul Newman?
C'est écrit à côté de ça.
Non.
Bon, vous l'aurez deviné,
voilà,
du coup.
Clint Eastwood
a été maire de Californie en 1986.
Vraiment, c'est écrit Mayor of Carmel by the Sea.
Vous voyez, genre, ces genres d'informations, on le sait, c'est écrit directement, alors que Michael Jackson, je pense que s'il aurait été maire,
on l'aurait déjà su, je pense.
Il est toujours vivant.
Michael Jackson?
Non. Parce que là c'est de l'intox.
Non, je suis tranquille. Match 1 et la vitesse 1 du son. 2, 1000 km par heure. 3, 2000 km par heure.
Tu peux répéter la question, s'il te plaît?
Oula. Match 1. Okay. C'est un terme qu'on utilise soit pour définir la vitesse du son, de 1000 km par heure ou 2000 km par heure?
1000.
Quoique. J'en ai aucune idée.
Alors je dirais 1000 quand même.
Je te suis à 100% Lucie, je te fais complètement confiance.
Moi je dirais ma langue gauche, je sais pas.
Bah tu ferais pas. Tu ferais pas. Bah parce que il s'agit donc de la vitesse du son.
D'accord.
Qui est donc convertie en unité de mesure. Par exemple, je crois qu'une fusée va à Mach 23, il me semble. Dernière question. Le tigre sable est une créature 1 préhistorique, 2 légendaire ou en voie de disparition?
Préhistorique.
Légendaire.
En voie de disparition.
Bah c'est préhistorique, qu'on en voit parfois dans les films ou dans des BD ou séries.
Le tigre sable.
Des jeux vidéo aussi.
Wow.
Tu connais un jeu vidéo à la préhistoire?
Arc.
Arc.
Tout simplement.
D'accord.
Voilà, okay. C'est un jeu avec des dinosaures.
Je ne connais pas. Bah, merci. Et bah, voilà. Merci beaucoup Antonin. C'était super, super amazing en fait. J'ai trop kiffé. Et là, on écoute.
Elle est trop en mode Clint Eastwood là.
On écoute Love is Embarrassing d'Olivia Rodrigo. Like a goddamn fool.
HBET sur RCN.
Alors, il est 14h25 sur RCN Radio et nous écoutons Lucie avec ses expressions françaises.
Voilà, donc pour commencer, est-ce que vous avez déjà entendu l'expression « mettre de l'eau dans son vin » ?
Oui, bien sûr.
Oui.
Ah. Est-ce que vous savez ce qu'elle veut dire ?
Pas vraiment.
C'est d'être, d'être moins exigeant, non ?
Ouais, elle a trop de significations. Donc, je vais vous en citer certaines, mais elles ne seront pas toutes là. Donc déjà, elle est apparue vers le milieu du 15e siècle. Sa première version, parce qu'elle en a 3-4. Donc au début, elle voulait dire faire passer sa colère, donc se calmer, etc. Mais avec le temps, du coup, on va voir que sa signification, elle a changé, elle a évolué, également en fonction du contexte. Donc c'est parti. Donc si c'est dans un contexte politique ou juridique, etc., elle va vouloir dire diminuer ses ambitions, c'est-à-dire faire plus facilement un compromis, etc., pour que les deux parties... puissent avoir chacun un petit peu de ce qu'ils veulent, en fait. Mmh. Ou alors, je peux même utiliser une autre expression pour dire la même chose pour un contexte politique. Revoir ses exigences à la baisse.
Oui, oui, voilà. Ça, c'est ça.
Je suis d'accord.
Ça, c'est plus courant.
Voilà. Donc, ça veut dire un peu la même chose dans ce contexte-là. Après, dans un autre cas, au Moyen-Âge, le fait de couper son vin avec de l'eau, du coup, c'était très fréquent. Vraiment, aujourd'hui, on se dirait c'est bizarre un peu. Alors qu'au Moyen-Âge, en fait, ils le faisaient tout le temps.
De mettre de l'eau dans son vin ?
Oui, couper leur vin avec de l'eau pour que ça soit moins alcoolisé et plus doux.
Du coup, tu sens moins le raisin et plus l'alcool, non ?
Je sais pas.
Ouais. Non, les Allemands aussi, ils font ça avec de l'eau pétillante. Ils coupent le vin blanc avec de l'eau pétillante.
Ah ouais ?
D'accord.
Ah
ouais.
L'eau pétillante.
Donc, et puis, au XVIe siècle, on a utilisé l'expression plus eau, plus...
Oui.
Pardon. Plus au sens figuré, pour symboliser cette idée de retenue, en fait, de se calmer. C'est que là, voilà. Donc ça, c'est deux, trois, c'est ce que ça veut dire, mais il n'y a plus trop de signification pour toutes les cités. Voilà.
Donc c'est quoi la plus courante aujourd'hui ?
C'est, ça dépend le contexte, hein, comme je l'ai dit. Okay. Si c'est juridique, c'est plus faire des compromis. Et dans la vie de tous les jours, comme ça, ce sera plus se calmer.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
Ok.
Est-ce que vous connaissez l'expression « raconter des salades » ?
Oui.
Oui.
Bah oui, dire des mensonges.
Oui.
Ouais. Elle date du 19e siècle, donc moins vieille que l'autre, mais pas tout, non plus toute jeune, on va dire. À ce moment-là, la salade, c'était utilisée comme métaphore pour désigner un mélange de choses, mais pas forcément d'aliments. Vraiment de tout ce que vous voulez.
Oui.
Ah. Une salade de... voilà.
Ok.
Et donc du coup, elle était donc utilisée pour parler d'un mélange de faits pour créer une histoire, donc des faits plus ou moins réels, voilà.
Ok.
Et donc au final, cette expression, elle veut dire qu'on raconte un mensonge.
D'accord, ok.
Voilà.
Oui, ça on l'a vu.
Donc on peut le remplacer avec d'autres légumes, c'est ça ?
Non, en fait, une salade, c'était vraiment un mot utilisé pour tout ce qui est mélangé, en fait.
D'accord.
Pas que pour des aliments.
Ok, d'accord, oui, je comprends. Bah, oui, parce
voilà.
Une salade...
Donc là, du coup, hop, on met plein de... choses ouais. Pas forcément réelles et hop, ça nous fait une salade de des mensonges.
D'accord, bah, okay. Merci beaucoup,
voilà.
Lucie. Je vous remercie à tous d'avoir participé à nos chroniques. Et je voulais dire que je voulais parler justement d'une pièce de théâtre, Les Yeux Noirs, de la Manufacture de Nancy, qui est actuellement en représentation. Et voilà, merci beaucoup tout le monde.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Oui.
Et passez un bon mercredi après-midi.
Bon mercredi après-midi.
Salut.